Il est 15h39, ici dans les studios de la journée de la radio en direct de l'ENS. Et nous tenons à saluer tous les gens qui nous écoutent à travers le monde depuis l'Australie, Lyon, l'Angleterre ou encore l'Essonne. Et tout de suite, nous accueillons Camille Glas et Marine Doux qui viennent nous présenter Le Grand Tôt, qui, pour une fois, délaisse les personnalités politiques pour recevoir des reporters de guerre, journalistes de différentes maisons radiophoniques venus partager leurs expériences du terrain et leur amour du métier.
Salut à tous! Le Grand Tôt vous accueille aujourd'hui dans les studios de transmission rue d'Ulm à l'occasion de la journée de la radio. L'équipe du Grand Tôt se décline au féminin. Je suis en compagnie de Marine Doux.
Bonjour à tous.
Bonjour. Au féminin pour vous parler de guerre et de radio. Alors nos invités ne pouvant être présents, nous sommes allés recueillir leurs confidences et leurs propos, Marine Aliogège et moi-même. D'un côté, Daniel Mermet, grand reporter de l'émission culte de France Inter, La Basse, j'y suis, diffusée du lundi au jeudi. Une émission au ton résolument engagé, où les auditeurs participent à volonté sur le répondeur de l'émission, particulièrement connu. Daniel Mermet nous a, pour l'occasion, partagé sa passion vibrante pour le terrain.
Et de l'autre côté, nous avons reçu Nicolas Tenève, lui aussi grand reporter, d'abord à Europe 1 et aujourd'hui à Canal+, avec l'effet papillon. Sur tous les fronts, de l'Ukraine en passant par l'Afghanistan, il capte, rapporte et saisit l'intensité de la guerre.
Mais pour le moment, nous vous laissons savourer la première partie de ce regard croisé sur la guerre.
Daniel Mermet, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. Première question spontanée, qu'est-ce qu'évoque pour vous le mot « guerre » ?
C'est vraiment la question la plus difficile. Comment prendre ça ? Il existait un institut de polémologie. Je ne sais pas s'il existe toujours, où on étudiait les mécanismes de la guerre. Mais au-delà du refus de la guerre. Bien sûr, la guerre, c'est mal. La guerre, c'est mal. Et là, c'était au-delà de ça. C'est-à-dire, on étudie les mécanismes qui font que comment fonctionne la guerre, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue psychologique, du point de vue anthropologique, etc.
Pour vous, quel univers est-ce que ça évoque en tant qu'homme de terrain ?
C'est quand même le moment où des choses se révèlent.
Ouais. D'où l'importance d'aller sur place.
Oui, oui, mais c'est le moment où les choses se révèlent, aboutissent, s'accomplissent parfois. En fait, ça ne s'étudie pas. C'est pour ça que je commence avec la polémologie, parce que ça ne s'étudie pas. On n'étudie pas la guerre. On refuse, on dit c'est mal, on veut faire la paix, mais on n'étudie pas les mécanismes, on n'étudie pas les forces qui aboutissent, qui se conjuguent pour arriver à la guerre, qui sont très très souvent des raisons économiques, mais pas toujours, qui sont très très souvent des raisons politiques, mais pas seulement. Et puis, il y a une histoire de la guerre. La guerre a changé. La guerre, enfin, là, on commémore le 100e anniversaire de la première guerre industrielle et universelle, qui a commencé en 1914, qui a fini en 1945. C'est une seule guerre, ça. Hein, 14-45, c'est une seule. Il n'y a pas eu deux, il y en a une. Et qui dépend. C'est pas parce que c'est la paix que c'est pas la guerre. Le grand bond en arrière accompli par le XXe siècle, ça a été d'impliquer les civils, les populations civiles dans les guerres, comme proie, comme otage, comme victime, et d'impliquer des hommes du commun, des petites gens, dans les guerres, comme les appelés, les fameux appelés. Jadis, c'était des hommes, des militaires, professionnels. On économisait les vies.
Nicolas Tenève, bonjour.
Bonjour.
Première question pour vous, qu'est-ce que la guerre ?
Beaucoup de bruit et beaucoup d'odeur. Oui, d'abord, de la guerre, quand on regarde une série ou quand on regarde un film, elle est totalement atténuée. Et le premier choc de la guerre, en fait, c'est l'intensité énorme d'une explosion, d'un tir de fusil, de mitraillette ou de char. C'est énorme.
Et pour ça, la radio est un média privilégié, justement, pour faire ressentir.
Ah ben, en tout cas, ça permet de faire du reportage radio assez facilement, puisque la base de la guerre, quasiment, c'est le bruit. Donc, du coup, vous tendez le micro et avec un peu de chance, il y a 3-4 personnes qui vont s'exclamer, dire on a touché, on n'a pas touché, ou un blessé, si un tir sur vous qui va hurler. Et radiophoniquement, c'est du travail vite fait, bien fait, j'ai envie de dire.
Il y a l'épreuve des réalités de terrain que vous avez observées. Comment votre conception de la guerre a évolué au fil du temps, au fil de votre expérience?
Ce que je peux dire dans mon expérience, c'est que il y a quelque chose qui... c'est des moments où la substance se montre, la substance de l'humanité, la substance de l'histoire se montre.
Qu'est-ce que ça peut être, la substance de
l'humanité? C'est des choses qui ne se révéleraient pas, qui ne se montreraient pas, qui ne se montrent pas, qui ne se révèlent pas dans d'autres situations. Voilà, ouais. Il y a des choses qui fait que on peut comprendre la fascination des observateurs pour la guerre, la fascination des militaires pour la guerre, parce qu'il y a des choses qui se produisent pendant les guerres, qui ne se produisent jamais dans la vie normale.
Par exemple,
tout un tas de choses. L'amour.
L'amour dans la guerre.
Ouais. Ouais. La puissance, l'héroïsme, le dépassement.
Et surtout
la fréquentation de la mort. Fréquentation de la mort. C'est tellement chiant de vivre comme ça, de s'emmerder. Donc il y a des gens qui adorent ça, qui adorent aller aux limites. Et tout ça a été analysé, décrit depuis très très longtemps, cette excitation, qui est quand même plus une chose d'homme que de femme, quand même. Hein. Les femmes. Enfin, c'est voilà. Donc, mais il y a quelque chose pour un observateur, pour un journaliste, qui se montre là, qui se montre pas dans d'autres situations.
C'est des moments où il y a de la fraternité entre les gens, etc. Machin, et ça, c'est sympa à vivre.
Et cet esprit de fraternité, c'est propre à la guerre?
Ouais, je trouve. Enfin, propre à la guerre. En tout cas, c'est plus développé que dans d'autres circonstances, clairement, puisque, entre guillemets, tout le monde en chie, et que ce soit les journalistes, les populations civiles, même les soldats vilains, entre guillemets, hein, si tout le monde cède, parce qu'il faut faire face à quelque chose, il faut bouffer.
Et ça, on le retransmet pas tellement, finalement, à la radio?
Non, moi je trouve que le dernier reportage qui a bien retransmis ça, c'est le Enquête Exclusive. Quand il monte au front avec les djihadistes et qu'il y a un moment où ils sont sous le feu des chars et les mecs ils sont plaqués au sol et le type il a l'intelligence en fait, de filmer les visages. Et on voit la peur. On voit la peur et les gars qui disent ça va, tu tiens, et c'est vraiment ça en fait.
Pourquoi est-ce qu'on le fait pas plus? Besoin de sensationnel.
Parce qu'on ne nous le demande pas, il faut toujours donner l'impression qu'il y a des guerriers invincibles, qu'il y a le côté grande gueule des médias qui fait qu'il faut glorifier un peu le guerrier, quoi. Mais je peux vous dire que le guerrier, il flippe. Hein.
Alors, vous parlez d'excitation des acteurs de la guerre. Est-ce qu'il y a une excitation du spectateur, de l'observateur?
Oui. Indéniablement, il y a une fascination pour la guerre. Le film de guerre, c'est un...
Le film, est-ce que ça se transmet aussi par la radio, d'une manière encore plus intense que par l'image?
Bien sûr que ça se transmet par la radio. Vous écoutez une émission qu'on a diffusée hier,
sur le Rwanda,
qui est une situation... voilà, bien sûr que oui. Et on a eu des reportages de guerre assez vite en radio.
Et quelle est la force justement de la radio par rapport à un autre média quand on veut transmettre?
Vous attendez à ce que je dise l'imaginaire. C'est pas faux, mais il ne faut pas oublier que la radio est un média très dangereux, hein, qui a servi. Goebbels savait parfaitement s'en servir, Hitler savait parfaitement s'en servir. Et on a eu, puisqu'on parle du Rwanda, la radio d'Émile Collines, qui a été la radio qui a organisé le génocide, qui a été le Zyklon B du génocide. Les ordres arrivaient du jour au lendemain, donnant des ordres et des conseils, littéralement structurés, le génocide. Donc la radio, c'est ça aussi, hein, c'est pas... Ça peut être ça, ou ça peut être ici Londres, et ça peut être aussi très libérateur en termes, ça sert à tout la radio, hein. C'est pas seulement ce gentil média de l'imaginaire, de l'imagination, et qui fait rêver. Si vous remontez dans l'histoire de la radio, vous avez, pendant la guerre d'Algérie, des reportages absolument formidables sur Europe 1, qui commençait à cette époque-là, c'était le début du transistor, et vous avez des reportages absolument magnifiques de reporters qui sont sur le terrain, qui sont avec les nagras, c'est-à-dire les magnétophones, on commence à porter des magnétophones portatifs, les gars sont en train de marcher, de respirer, etc. Vous avez de magnifiques reportages de 1944, lors de la libération de Paris, vous avez un reporter, un grand reporter, Pierre Crénès, qui est à Place de la République et qui décrit ce qui se passe avec les tirs, les chars, qui est dans une situation comme ça, très, très tendue. C'est très fort. Non, la radio permet de faire comprendre, faire partager. Un moyen de reportage formidable.
Est-ce qu'on y comprend quelque chose, finalement, quand on est au cœur du conflit comme ça?
Ça dépend des endroits, en fait. Quand il y a une ligne de front bien définie, on y comprend quelque chose. C'est-à-dire que, globalement, on sait où on est. Et quand il n'y a pas de ligne de front bien définie, non, on ne sait pas très bien qui sont les méchants, qui sont les gens sur lesquels on peut compter, de qui il faut se méfier, d'où va venir le mauvais coup. Mais normalement, dans les guerres traditionnelles, on va dire, si on prend l'Afghanistan, l'Irak, la Tchétchénie... Suivant quel côté vous êtes, vous savez où vous situez.
De quel côté vous prenez parti?
Non, du côté qui vous emmène à la guerre, entre guillemets.
Mais jamais vous ne prenez parti ou pour ce que vous jugez être l'oppresseur ou l'opprimé ou...
Franchement, on ne prend pas parti. Un sujet radio, c'est on vous demande en 1 minute 30, 2 minutes, avec un peu de chance, si on vous accorde 3 minutes de raconter une situation précise à un moment que vous avez vécu. Donc, je sais pas, moi, les souvenirs que j'ai, les premiers bombardements puissants, émotionnels, et après, vous allez le lendemain dans la rue, vous voyez des soldats qui sont hébétés, des populations civiles qui se demandent ce qui s'est passé, qui sont privés d'eau, d'électricité. Enfin, il n'y a pas besoin de prendre parti pour raconter.
Et alors, il y a un goût, justement, pour raconter ces souffrances? Pour un partir goût. Là-bas, un goût, une prédilection, pour avoir envie de raconter tout ça
ou... Non, moi, la première fois que j'ai vécu la guerre, c'était en Tchétchénie. J'étais jeune, j'étais pigiste à Moscou. Et il se trouve que la guerre avait lieu et que... Bah, juste question. Hein, donc, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est assez simple, en fait. C'est que c'est... Enfin, moi, j'ai envie de démythifier un peu le truc. C'est que, journalistiquement, c'est très simple. Psychologiquement, physiquement, ça peut être dur parce que voilà, vous dormez pas beaucoup, il y a le bruit, les odeurs de mort ou autre, des blessés. Un blessé, ça pue souvent. Hein. Et vous mangez mal, en principe, souvent, parce qu'il n'y a pas grand chose à manger. Mais vous mangez parce que vous avez de l'argent pour payer. Mais journalistiquement, c'est super simple parce que toutes les histoires se passent devant vous, il n'y a pas de coup de fil à passer, il n'y a pas d'interlocuteur à trouver, tout vous tombe dans la main en fait ou sous le micro. Et ça, c'est la première chose. Il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai fait la guerre, c'est dur, machin ». Journalistiquement, c'est simple. Physiquement, moralement, ça peut être compliqué. Mais journalistiquement, quand vous vous retrouvez à faire une enquête, à devoir chercher des gens, démêler des fils, appeler les administrations, trouver des données, etc., c'est beaucoup, beaucoup plus difficile.
Comment évolue votre façon de partager ce qui se déroule sur les scènes de guerre à travers le média qu'est la radio? Y a-t-il un art de raconter la guerre?
Vous êtes un reporter, c'est-à-dire que vous êtes un témoin volontaire. Vous portez comme témoin. Vous allez physiquement. C'est ça le reporter. C'est quelqu'un qui va physiquement, qui se met dans cette situation de vivre un truc physiquement. Et ça va être de plus en plus précieux dans un monde qui se virtualise et qui se dématérialise. L'être humain va être de plus en plus précieux dans sa présence et dans son
histoire. Irremplaçable.
Mais évidemment. Donc le reporter physique a de l'avenir. Et donc c'est quelqu'un qui va ressentir les choses plus que les comprendre. Il n'est pas forcément celui qui compige, mais c'est celui qui sent, qui ressent les situations et qui le dit. Donc il a un ressenti... Voilà, c'est ça qui va d'abord, c'est comme ça qui va... Bon, mais c'est le photographe aussi, le reporter de guerre, l'écrivain, enfin celui qui écrit, je pense à John Reed ou à Hemingway, ou, etc. C'est des grands reporters de guerre savent très vite balancer ce qu'ils viennent de voir, de ressentir, etc., tous les grands photographes. Et en radio, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils comprennent au juste de ce qui se passe de façon large? Ils comprennent pas, quoi. Enfin, c'est bien rare, mais ils ressentent. Ils ont le nez sur le guidon, ils ont le nez sur ce qui pète un peu partout.
Est-ce qu'on a le sentiment de vivre en quelque sorte l'histoire quand on est dans ces moments-là?
Ouais, ça c'est.
Il y a un sentiment qui est présent.
Ouais, c'est pas vraiment sur le coup, mais c'est après quand on voit les images que les gens en parlent quand on rentre. Et que les gens en parlent et vont dire voilà, l'explosion du palais de Saddam, la prise de Grozny, etc. Et qu'on y était, ouais, là, c'est dit waouh, ouais, quand même, c'est assez sympa. Les héros, quoi.
Est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité, justement, par rapport à ça, de fait de partir, on rapporte l'image, et finalement, voilà, on rentre, par exemple, dans un milieu plutôt confortable, et on quitte quelque chose qu'on a vu vraiment?
Non.
Oui, finalement, c'est une mission.
Parce que c'est pas comme une autre, ouais. Parce que voilà, après, on se parle par mail, par téléphone, et voilà, ça fout les boules pour les gens quand on sait que voilà, finalement, il va falloir partir, abandonner le pays parce que c'est trop dur, etc. Mais c'est pas notre vie, quoi. Enfin, y a de l'empathie, mais on n'est pas à leur place. En fait, c'est comme. Moi, je pense qu'il faut rester à sa place. Enfin, je veux dire, c'est comme si on va au tribunal et on se dit. Le pauvre, il est victime de machin, tout ça. On va pas aller en prison à sa place, quoi. Voilà, c'est comme ça. Le journaliste, il est là. Et les gens sont extrêmement reconnaissants, d'ailleurs, très souvent, qu'on soit là. Qu'on prenne le risque d'être là, de mal bouffer comme eux, de faire des heures et des heures de bagnole sur des pistes, d'être levé à 5 du mat pour raconter un truc à la radio, machin. Les gens sont super reconnaissants, ça qui est génial, quoi. Contrairement à ici, d'ailleurs, souvent, c'est ça qui est... Ça, ce qui est drôle, non mais franchement, ça c'est hyper rémunérateur en bonté, quoi, vraiment.
Et est-ce que l'émotion, ce serait la fin, justement, de l'information? Ne jamais se laisser submerger?
Ça dépend sur quelle info on est, mais je pense que, ouais, il y a des tas de trucs sur lesquels il faut savoir freiner des cas de fer, parce que en Irak, il y avait un truc qui arrivait fréquemment, fait par les hommes de Saddam, c'était au début de la guerre, au début des bombardements, en fait, parce que la guerre est commencée avant, sur Bagdad. C'est soudainement, une famille arrive dans le hall de l'hôtel et dit « On a été bombardés, il y a des morts et tout ». Et en fait, vous allez sur place, la maison est abîmée de ça, mais en fait, c'est des missiles antiaériens qui sont retombés. Donc c'est pas les Américains qui ont tué ces gens. Il y avait aussi une histoire avec, soi-disant, un Tomahawk sur un marché. Et en fait, pareil, vous vous rendez compte que c'était un missile anti-aérien planqué dans une école. En fait, il avait été mal tiré, qui avait sauté sur le marché. Un Tomahawk qui a 200 kilos d'explosif, donc il y a un cratère énorme. Là, c'était un petit cratère avec des billes partout. Et les missiles anti-aériens, c'est une petite explosion qui envoie des billes partout pour attraper l'avion, faire des trous dans la carlingue, etc. Donc c'était eux, c'était pas les Américains. Et, sauf que là, ça vous est vendu et des tas de gens éploraient, machin, et c'est qui crient dans tous les sens, et vous pouvez vous laisser piéger.
Voilà, mais après, qu'est-ce que le reporter de guerre, de façon générale, peut dire de la guerre au moment où il arrive? C'est ça suppose. On est en train de parler du Rwanda, la 94, qu'on est allé au Rwanda. Bon, des gens dans la ville disaient, mais attends, comment on dit, outils, les tout-sous. Les gars ne savaient pas du tout, mais ils étaient envoyés tout de suite parce qu'il fallait du son, parce qu'il fallait du machin, il fallait de l'émotion, il fallait y être, il fallait être avant les autres, etc. Mais qu'est-ce que ça aurait été un bon reporter? C'est quelqu'un qui aurait eu tout le contexte, qui aurait connu l'histoire, toute l'histoire, tout le contexte. Mais il n'existe pas, ce gars-là. Il n'existe pas. Donc il y a un moment où la naïveté, l'ignorance du reporter, elle peut être porteuse de... Elle peut permettre, nous on appelle ça ouvrir l'huître, vous voyez, de donner envie d'en savoir plus. Il y a des reporters qui sont vraiment des révélateurs sensibles, formidables. Certains ont une bonne connaissance de la scène géopolitique dans laquelle ils sont. mais aucun n'a conscience de toutes les implications. Je repense à nouveau au Rwanda, enfin, qui aurait pu maîtriser à la fois les implications américaines, des Nations Unies, il fallait avoir présent à l'esprit l'échec que les Américains venaient d'avoir au Somalie, pourquoi les Belges n'interviennent pas, pourquoi est-ce que, et l'histoire de ce foutu Rwanda, etc., ça supposait.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous y revenez 20 ans après.
Ah, pas seulement 20 ans, non, on y travaille depuis 20 ans.
Oui, vous y travaillez.
Alors là, enfin, c'est-à-dire qu'après, ce que vous avez, ce que vous pouvez avoir, c'est sur certains domaines, vous avez des journalistes qui reviennent sur des thèmes comme ça, hein, qui reviennent sur des thèmes. Là, vous commencez à vous faire une culture un peu du sujet. Parce que ça se développe dans votre esprit, vous y pensez, vous y revenez, vous y retournez. Donc vous commencez à construire à peu près une vision d'une région ou d'un sujet.
Est-ce que c'est vraiment possible quand on a été émotionnellement engagé, comme vous avez pu l'être d'ailleurs sur
Et l'émotion, c'est la peste. L'émotion, c'est la peste. C'est la peste émotionnelle. Hein.
C'est-à-dire ?
Et c'est très dangereux parce que vous êtes. C'est le point auquel il faut amener vos auditeurs. Mais c'est surtout le point qu'il faut dépasser. Sinon, il reste là, sidéré. Et puis, la conclusion est, quelle horreur, qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que c'est malheureux, oh là là, là l'humanité, qu'est-ce que c'est moche, ça changera donc jamais, etc. Et ça, c'est un point auquel vous arrivez assez vite. Mais il faut surtout très, très vite l'enjamber pour aller plus loin, pour aller sur les causes.
Mais comment justement rester, on parlait de l'objectivité tout à l'heure, rester objectif face par exemple aux grandes manies, mais pas se laisser avoir, c'est une question d'expérience.
Je crois, mais il n'y a pas d'objectivité, je pense que tout n'est pas égal en fait. Alors, une manip faite entre guillemets par un gentil n'est pas une manip faite par un méchant. Quoi. C'est... Les gentils aussi entre guillemets sont manipulés, je veux dire les gens sur Maïdan, ils ont pris des sous, enfin, y a des gens qui ont été payés pour manifester également. Mais après, c'est derrière, il y a qui quoi. Derrière, est-ce qu'il y a des gens qui vont... parce que c'est la réalité, la seule fois où les pro-européens ont été au pouvoir en Ukraine, en 2004, avec la révolution orange, il y a eu des élections dans ce pays. Et le pouvoir a été transmis à Yanukovych, pas de bol. Mais le pouvoir a été transmis, donc les mecs ont respecté les urnes. Après, on peut leur reprocher plein de trucs, ils ont fait buter des gens aussi, ils ont volé de l'argent aussi. Mais il y a eu un respect du processus démocratique. De l'autre côté... On sait qu'il n'y aura jamais de respect pour les processus démocratiques, qu'on fera aussi buter des gens, la preuve, 140 morts sur Maïdan, et que si jamais des gens voulaient être élus ou reprendre leur indépendance, on irait les buter tous jusqu'au fond des chiottes, comme dirait Poutine. Donc, il y a de la manip des deux côtés, mais toutes les manips ne sont pas égales et avec quels objectifs, quoi. Voilà, les manips pro-Saddam, Biden, c'était tragique, quoi. Les gens, hors manif, quand on les trouvait, ils disaient, voilà, moi je suis prof de maths, je touche 11 dollars par mois, et là j'ai touché 2 dollars pour aller manifester. Et si j'étais pas venu, ils auraient violé ma femme, ils l'auraient peut-être tué, quoi. Donc,
Mais est-ce que c'est aussi le rôle du journaliste, plutôt de montrer, par exemple, les images que finalement on a l'habitude de voir, par exemple, de la guerre, et pas montrer ces manips où c'est impossible, par exemple, de montrer ce processus qu'il y a derrière.
Si le processus, on peut le décrire aussi, mais vous pouvez pas bosser pour un grand média sans montrer l'image de la guerre telle qu'il faut la montrer. On vous demande aussi du son et des larmes, quoi. Ça, c'est...
Est-ce qu'on passe à côté de choses ou faut toujours revenir sur le terrain pour voir?
Non, on passe à côté de choses, c'est obligé. On peut pas se mobiliser en permanence sur les mêmes événements. On n'a pas les moyens. On est, enfin. Moi, quand je pars en Afghanistan, je suis tout seul, quoi. Et derrière, on se relaie, mais il n'y a pas beaucoup de journalistes qui veulent le faire. Hein. Moi, quand je fais ma valise pour aller en Irak en 2003, il y a quand même des gens européens qui me regardent, genre comme si j'étais un abruti, quoi. Et, mais oui, il y a beaucoup de journalistes qui trouvent ça insensé de vouloir aller sur les... Enfin, en tout cas, d'accepter d'aller sur les terrains de guerre, ou même de vouloir y aller.
Vous avez évoqué le risque pour vos auditeurs ou pour les auditeurs de manière générale de se dire au terme d'un reportage c'est horrible, c'est tout le temps la même chose, l'homme, on ne change pas, l'humanité, etc. En même temps, vous avez dit vous-même que la guerre, ce sont des moments de révélation, d'amour, etc. Comment vous vivez cette contradiction?
Non, il y a quelque chose qui se révèle dans les comportements. Il y a quelque chose qui se révèle dans les comportements.
Et que l'auditeur ne perçoit pas forcément comme vous le percevez sur place.
Non, on a commencé par parler de la fascination. Oui. ce qu'exerce la fascination exercée par la guerre, c'est le moment où il se passe quelque chose qui se passe pas d'ordinaire, quoi. C'est quand même une rupture avec l'ordinaire.
L'amour est-elle propre à... Enfin, les moments de révélation de l'amour.
Oui, il y a des choses qui sont.
Oui, l'héroïsme, c'est vraiment.
Regardez, enfin, si vous regardez le nom, ouvrez l'officiel des spectacles, vous allez voir la moitié des films qu'on vous propose, c'est des films sur la guerre, autour de la guerre. C'est voilà, il y a une tension, il y a une intensité, il y a une espèce de moment d'incandescence. De la vie menacée. Vos vies ne sont pas menacées, nos vies ne sont pas menacées. Mais cette menace, j'avais une sœur, que j'ai toujours, grâce à Dieu, qui m'a raconté que pendant la guerre, elle était jeune, pendant la guerre très belle, fille, jeune, et bon, quand il y avait des alertes et qu'on descendait aux abris, elle et sa sœur, plus jeune, elles se maquillaient, elles n'avaient pas de bas. Il n'y avait pas de bas, ça n'existe pas. Mais elles se faisaient des coutures comme ça, comme si elles avaient des bas. Hein, enfin, moi, que ça met des bas, qu'elles descendaient, je suis mon coquette avec un petit peu de parfum. Il y avait des sirènes parce qu'elles allaient draguer. Hein. C'était des lieux. Ça se raconte pas, faut pas dire ça parce que ça rendrait la guerre sympathique. Mais pourtant, voilà, c'est un tout petit exemple, hein, puis des tas de situations. Il y a une intensité, il y a une dinguerie, il y a une folie qu'on regrette ensuite la plupart du temps, mais on ne peut pas dire qu'il y a une fascination réelle.
Il y a une drogue, il y a un effet
d'accoutumance. Tout à fait, oui, bien sûr. Oui, vous avez des correspondants de guerre, vous en rencontrerez peut-être, qui sont des gens qui sont des vrais junkies, des photographes, j'en connais, des reporters de toutes sortes, qui sont des vrais junkies, qui ont besoin de leur dose. Dès qu'il y en a une quelque part, ils y font. C'est un celui qui risque. Ils se retrouvent d'ailleurs entre eux. C'est une bande de dingues qui. Par après, les descentes de trip sont assez terribles. Ouais.
Des drogués, des junkies, des fous furieux. Être reporter de guerre, ce serait en quelque sorte rechercher la vie jusque dans la mort, une sorte d'érotisme à la bataille. Et je vous renvoie d'ailleurs à l'émission de Daniel Mermet du 7 avril dernier, dans laquelle il revient sur son périple au Rwanda, dont il nous parle à plusieurs reprises, lorsqu'en mai 1994, il découvre au cœur d'un charnier une fillette encore vivante, Valentine, qui est comme une lueur d'espoir, une lueur de vie dans ce temple macabre. Un an après, il la retrouve, et 20 ans après encore, les auditeurs de France Inter la retrouvent. Elle est aujourd'hui maman, et se dresse comme une mémoire vive du génocide. Elle est cette forme de beauté dans la guerre, beauté qui enivre et qui témoigne de cette folie guerrière qui vous emporte. Pourtant, peut-on être complètement dingue quand on veut être grand reporter? Je vous laisse apprécier la réponse de Nicolas Toneff à cette question.
Je m'élève contre ça. Je comprends pas. Enfin, les gens qui disent ça, je pense qu'ils ont vraiment envie de se faire valoir, mais moi, je trouve pas ça du tout. Quoi. Moi, c'est facile. Il y a de l'adrénaline, d'accord. Mais
on
moi,
se laisse pas prendre par l'adrénaline, justement, forcément.
On peut se laisser prendre, mais moi personnellement, j'étais assez vite calmé parce que j'ai assisté à la mort de plusieurs collègues. Donc l'adrénaline, vous apprenez vite à la contrôler, quoi. Donc, au bout d'un moment, vous voyez assez vite quand même ce qui va valoir le coup, ce qui va pas valoir le coup. Et l'adrénaline du allez on y va, elle vient honnêtement sur des situations qui sont plus calmes que les vrais moments où il se passe vraiment des choses. Quoi.
D'accord. Donc on finit par plus vouloir y aller finalement. Quand on a assisté comme ça à la mort, non, ça vous a dégoûté ou
pas du tout.
Vous parlez de la mort de collègues, ça qui vous a calmé.
Ça calme sur le côté allez on y va, c'est-à-dire que écoutez les gens qui vous disent faut aller quelque part. Moi l'événement auquel je fais référence, c'est le décès de Johan Sutton, Pierre Billot et d'un journaliste allemand dont je me rappelle plus le nom en novembre 2001 en Afghanistan, le 10 novembre 2001. Et c'est une journée particulière parce qu'on était beaucoup de journalistes sur une colline. C'était un peu une espèce de... C'était le grand jeu de la guerre, en fait. Il y avait beaucoup de bruit, il y avait des tirs à droite à gauche. Il y avait des tirs qui étaient payés par des télés américaines, qui avaient besoin d'images, d'autres qui étaient réels. On se faisait un peu bombarder, mais globalement, il y avait plutôt une bonne ambiance. Il y avait du soleil, de temps en temps, il fallait sauter dans les tranchées. On était entre copains, ça se passait bien. Et les Moudjahidines, eux-mêmes, étaient assez amusés par la présence de tous ces journalistes, de ce grand barouf médiatique. Et du coup, le soir, en fin de journée, ils disent « Tiens, allons, on vous emmène sur la colline d'en face, on l'a prise. » Il n'y a aucune preuve qu'elle a été prise, rien, sauf que ça a arrêté de tirer depuis, on va dire, 3-4 heures. Certains ont eu la tentation d'y aller. Allez, on va faire un tour en char. Et ils ne sont pas revenus, quoi. Et je ne dis pas qu'on a été meilleurs que les autres, ceux qui n'y sont pas allés. Mais voilà, ça a été un hasard, le fait qu'on n'y aille pas. Enfin, moi, j'en avais pas besoin pour faire du reportage pour Europe 1 le lendemain matin. Sinon, j'y serais peut-être allé, j'en sais rien. Hein. Mais le fait que le chef me dise « c'est bon, on a ce qu'il faut », fait que j'y suis pas allé. Et le lendemain, dans la nuit après, on est allé chercher les cadavres, et ça, c'était pas drôle. Et en fait, vous comprenez vite, du coup, que ce côté adrénaline, ça, moi, toutes les autres guerres que j'ai faites, d'ailleurs, je vous le dis, je les ai faites sans adrénaline.
Ouais, une fille qui était une correspondante de l'AFP à Moscou au temps de la première guerre de Tchétchénie, et qui était une dingue, quoi, qui descendait tout le temps, qui était tout le temps fourrée à Grozny, qui était là, qui cavalait entre les chars, les machins, faisait un truc complètement dingue. Elle a fait un boulot fabuleux.
On entend souvent parfois même les politiques qui critiquent ces journalistes un peu fous qui veulent absolument aller sur les terrains et les lieux de guerre. Est-ce que c'est une critique que vous acceptez ou que vous comprenez du moins ?
Non, pas du tout.
Vous parlez de la folie justement que la guerre entraîne.
Ouais, mais honnêtement, les situations dangereuses, c'est celles auxquelles on s'attend le moins. Enfin, moi, une des situations les plus traumatisantes que j'ai vécues, ça a été en Birmanie, où je me suis fait arrêter après la révolte des moines. Et j'ai été fouillé intégralement par les flics, j'ai passé vraiment un très mauvais moment, quoi. Mais je m'y attendais pas à ce moment-là. C'était pas un risque prévu, entre guillemets. Et les copains qui sont morts, ils sont morts dans un endroit imprévu, en fait. Et on est tous passés dans les gorges de Tora Bora en décembre. On se fait tirer dessus violemment, et c'est un avion américain qui met une bombe sur les mecs d'en face qui nous sauve. Alors c'était imprévu, tout le monde ça avait l'air safe, il y avait des petites tentes de mecs qui étaient là à faire à manger, etc. Donc dire aux journalistes sont des inconscients, c'est hallucinant de bêtises, quoi, honnêtement. On prend, d'autant plus que tous ces gens-là, si jamais il vous n'a rien arrivé et que vous ramenez des belles photos à un beau reportage, vont toujours être prêts à vous récompenser, quoi. Le risque, il est partout. Moi, les risques que je trouve les plus inacceptables qu'on fait prendre aux journalistes aujourd'hui, c'est les journées à rallonge, et c'est faire des centaines de kilomètres en bagnole pour allier deux points, pour gagner du temps de nuit ou autre. Parce que ça, faire tuer des gens pour gagner du temps entre son reportage, c'est inacceptable. Après, quand on va à la guerre, on sait ce qu'on va faire, quoi.
Vous êtes au courant de cette peur, il y a une peur qui vous habite. Par exemple, vous partez en reportage, vous savez qu'il y a un risque, ou finalement on y pense que lorsqu'on est vraiment confronté au danger.
Sans forfanterie, honnêtement, on n'y pense pas. C'est un truc de fou, c'est que vous avez un job à faire, vous le faites. Le jour où on se fait tirer dessus là, sur ce point à l'entrée des gorges de Tora Bora. La première rafale de mitraillette, je cours et je me plante derrière des rochers. Et je me dis, merde, mon Agra et mon antenne 7. Je repars dans l'autre sens. Et ça tire. Mais je veux sauver mon matériel. Mais c'est totalement inconscient. Et je vais reprendre mon matériel et j'ai du bol, je le reprends mon matériel et je me replanque. Et je l'ai fait sans penser à rien.
Et vraiment, inconscient, vraiment, vraiment. Mais pas insouciant, donc.
Oui, non, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que honnêtement, moi je me suis jamais posé la question de savoir si j'étais courageux ou pas, parce que j'ai jamais eu cette espèce d'impression de. Je sais pas comment vous dire, vous êtes au bord du vide et vous dites allez, je vais y aller.
À travers ces regards croisés, on voit bien que deux générations s'affrontent sur la conception même de la guerre, de ses souffrances et de ses malheurs. Mais aussi deux regards sur la place et sur la mission du grand reporter. Tantôt héros, tantôt dingue, on voit bien que deux générations s'affrontent sur ce sujet.
Alors par-delà le vécu poignant de ces deux hommes, on s'est intéressé aussi à la raison pour laquelle ils aimaient faire ce métier. Donc on vous laisse écouter et on revient vers vous après.
Mais vous, qu'est-ce qui fait votre satisfaction ? Est-ce que c'est le retour que vous en font les auditeurs ? Est-ce que c'est vivre tout simplement cette situation-là ? Qu'est-ce qui fait votre satisfaction de journaliste ?
Non, mais nous, on est journalistes parce qu'on a, des buts précis, hein, qui sont de participer au devenir du monde. Hein. Pas moins, on veut changer le monde.
Donc, il faut avoir une part d'utopie pour...
Bien sûr, ouais, pas une part. On est là pour contribuer à la vérité, la connaissance, des grandes idées. On fait pas ce qui ne serait pas toujours.
Est-ce que c'est
pas marrant, sinon c'est obscène si vous faites ce métier.
Oui.
Pour d'autres raisons que celle-là, c'est un métier dégueulasse.
Oui,
c'est un métier dégueulasse. Si c'est un métier qui, si vous faites pas ça pour changer le monde, c'est un métier dégueulasse.
Il y a un amour du vivant et du contact.
Ouais, peut-être, ouais, je sais pas, mais il y a aussi un côté, honnêtement, enfin moi, passer 2 mois d'affilée dans une rédac, c'est bien, c'est sympa, mais avoir 8 jours de liberté, qu'elle soit difficile ou pas, c'est quand même sympa, quoi.
Ouais, vous assimilez ça à la liberté.
Bah oui, enfin voilà, vous êtes sur le terrain, vous êtes joignable comme vous voulez être joignable, tout en sachant qu'il va bien falloir faire le boulot. Hein, donc, et vous décidez d'aller dans un endroit, dans un autre, vous rencontrez qui vous voulez. Ouais, non, c'est le pro. Il y a beaucoup de gens qui sont passés rédacteurs en chef qui veulent retourner journaliste parce que ça leur manque.
Oui,
et que dans un moment où le boulot est de plus en plus dur, qu'il y a de moins en moins de moyens, etc., c'est vrai qu'échapper un peu à la pression de tout ça, y aller sur le terrain, ça fait partie d'une échappatoire.
D'une certaine manière, et c'est ça qui est touchant dans ces deux témoignages, c'est qu'après s'être reposé sur leur conception du reporter junkie, les deux reporters ici se retrouvent, leur sensibilité converge autour de cette volonté d'être libre, pour Nicolas Toneff, et de rendre libre, d'une certaine manière, chez Daniel Mermet, avec cette volonté qu'il a de vouloir changer le monde. Donc on n'a pas pu mettre l'intégralité des deux entretiens, mais Nicolas Toneff lui-même insistait sur la noblesse du métier et la prise de conscience que les journalistes cherchent à provoquer auprès de leurs auditeurs. On va conclure avec Daniel Mermet et sa vision de ce beau média qui est la radio. Le grand O, c'est donc fini pour aujourd'hui. J'en profite pour saluer Momo Outre-Manche et toute sa win. Salut à toi. Et la parole est désormais à Daniel Mermet. Merci.
Qu'est-ce qui fait le lien que vous avez avec vos si nombreux auditeurs?
Si nombreux. Rien par rapport à Claire Chazal. Hein. Mais si nombreux... 400, 500 000 auditeurs chaque jour. Mais il faut leur demander. On doit intérioriser leur attente. On doit deviner peu à peu ce qui leur convient, ce qu'ils attendent.
Parce qu'on dénote quand même une grande proximité. Souvent, ils vous tutoient, ils s'adressent directement à Daniel.
Ça, c'est le vieux truc de l'animation radiophonique. Hein. Ouais. Ça fait longtemps que l'animation radiophonique.
Donc, c'est la radio qui veut ça, finalement?
Oui.
Ou c'est votre émission?
La radio, c'est un double effet. À la fois, c'est un média de l'intimité. On ne parle qu'à vous. Le gars qui parle dans le poste, il ne parle qu'à vous. Et en même temps, vous avez ce sentiment. S'ils sont bons, si vous avez ce sentiment. Mais en même temps, quand vous allumez le poste, on dit bien allumer le poste. On dit toujours allumer le poste. Vous rejoignez une communauté d'auditeurs. Que vous n'avez pas, ce que vous ne faites pas quand vous podcastez, vous écoutez ça tout seul, vous écoutez votre truc, bon, je mets une machine. Et donc vous rejoignez une communauté
virtuelle.
Virtuelle, tout à fait.
Vous êtes un passeur en fait. Entre...
Et vous vous dites voyons ce qu'on nous donne à écouter. Hein. Voyons ce que les autres sont en train d'écouter. Et donc, vous n'êtes plus seul, vous êtes avec beaucoup de monde, même si vous êtes tout seul dans votre salle de bain ou dans votre bagnole. Et en même temps, l'animateur, enfin, si ça marche bien, vous avez l'impression qu'il ne vous parle qu'à vous. C'est ce double truc.
Communauté très intime.
Mais voilà.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci Nicolas Toneff.
Merci à vous.